Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Le département de la Moselle au centre des inquiétudes en raison de la flambée de l'épidémie et des cas de variants. Le préfet de Moselle annonce qu'il n'y aura pas de fermeture d'école ni de confinement local. Nous serons dans un instant avec Jean-Marc Todeschini, le sénateur PS de la Moselle, invité de ce journal. Les restaurateurs parmi les plus durement frappés par la crise après plus de 3 mois de fermeture. Une enquête révèle que 2 restaurateurs sur 3 proposent de la vente à emporter. À l'étranger, en Italie, Mario Draghi, nouveau président du Conseil italien. Mario Draghi a prêté serment ce matin comme Premier ministre. Dans ce journal également, du rugby avec la 2e journée du tournoi Destination et des règles sanitaires jugées bien surprenantes. Et puis la prescription culture de ce week-end avec le nouveau roman de Daisy Johnson, Sœur. La météo, temps hivernal aujourd'hui et même glacial dans le nord. 13 départements en vigilance orange froid. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. Et puis la ligne TGV Paris-La Rochelle, interrompue depuis ce matin en raison du gel sur les rails, sera rétabli dans l'après-midi à 15h, nous dit la SNCF. À 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur les essais cliniques sauvages conduits par le professeur Fourtillant dans une abbaye près de Poitiers. Il a testé sur 400 patients des patchs qui prétendaient guérir les maladies de Alzheimer et de Parkinson.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20.
France Inter.
La situation inquiétante en Moselle, la flambée de l'épidémie de coronavirus et la percée des variants alarment les élus locaux. Olivier Véran était hier à Metz, le ministre de la Santé a annoncé une accélération des tests et de la vaccination. 2000 doses de vaccins supplémentaires doivent arriver aujourd'hui en Moselle et les centres de vaccination seront ouverts tout le week-end. Les élus locaux, la plupart d'entre eux, notamment à Metz, réclamaient des mesures plus fortes comme la fermeture anticipée des établissements scolaires. Mais on ne touchera pas au calendrier scolaire. La zone B et la Moselle seront en vacances dans une semaine. Les écoles restent donc ouvertes. Pas de confinement local, annonce il y a quelques minutes du préfet de Moselle, Laurent Touvet. La vaccination va donc s'accélérer dans un contexte sanitaire très tendu. Les hôpitaux ont de plus en plus de difficultés à prendre en charge les nouveaux malades. Selon Marie-Odile Saillard, directrice du CHR de Metz-Thionville, il va falloir augmenter le nombre de lits pour les patients graves, 160 pour la semaine prochaine au lieu de 70 habituellement, avec une autre inquiétude que les ressources humaines ne suivent pas. Marie-Odile Saillard au micro de Natacha Cadour de France Bleu Lorraine Nord.
On est sur un plateau très haut en termes de prise en charge, avec des personnels épuisés, dont certains sont eux-mêmes victimes du Covid, amenant les établissements hospitaliers publics et privés à, de temps à autre, être obligés de fermer des lits faute de personnel. On est aussi dans une augmentation très progressive de ces lits de réa. On va upgrader par paquet de 5 lits. Hein. Pourquoi ça? Parce qu'on est très, très économe de nos moyens humains. C'est vraiment la ressource rare, précieuse. Nous manquons de médecins, nous manquons d'infirmiers. On va avoir d'énormes problèmes ressources humaines. Et la pire des choses, c'est que nos personnels tombent malades. Il faut absolument que le personnel soit vacciné vite, très vite et avec des formules vaccinales qui sont sans impact sur les effets secondaires, par exemple. Je ne peux pas me permettre d'avoir, moi, la moitié de mon effectif infirmier qui a une poussée de fièvre la semaine prochaine.
Invité de ce journal, Jean-Marc Todeschini, sénateur PS de la Moselle. Bonjour, monsieur Todeschini.
Bonjour.
On vient d'entendre le cri d'alarme de Marie-Odile Saillard, directrice de l'hôpital de Metz-Thionville. Le personnel soignant ne pourra peut-être pas faire face à la flambée de l'épidémie. Que lui répondez-vous, Jean-Marc Todeschini?
Éternel recommencement. Madame Saillard est obligée à chaque fois d'alerter les autorités. J'ai l'impression que le ministre de la Santé est venu hier faire de la communication. Je lui ai félicité d'être venu parce que c'est vrai qu'il avait créé l'inquiétude avant-hier dans sa conférence de presse et donc je pensais qu'il venait pour prendre des décisions, mais apparemment c'est toujours pareil. Je lui ai dit qu'il fallait que sa venue avait augmenté l'inquiétude des Mosellanes et des Mosellans, des parents d'élèves, des élèves. Il fallait apaiser et rassurer. Il a repris mes propos et m'a cité en conclusion, mais aujourd'hui on voit bien qu'on a fait faire au préfet de Moselle des basses besognes, annoncer que rien ne se passera. La concertation, c'était du pipeau. C'est donc très compliqué. Elle a raison, la directrice. Les personnels, moi-même, j'ai été atteint, donc j'ai été soigné dans son hôpital. Je peux vous dire que les personnels font tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont en tension totale. On manque de personnel, on manque de tous les personnels, même de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes. Et le vrai problème, c'est que si rien n'est fait, le virus risque, les virus, les variants risquent d'être hors de contrôle. Elle a été obligée déjà de déprogrammer 50% des opérations. C'est une perte de chance au niveau des soins pour ceux qui souffrent de cancer, ceux qui souffrent de maladies cardiaques et autres. Je crois vraiment que là, le gouvernement n'a pas pris la mesure. Le président de la République qui disait vouloir toujours suivre au début les scientifiques, il nous renvoyait toujours aux scientifiques. Aujourd'hui, il n'est plus sur les scientifiques, il s'occupe simplement des sondages et du taux d'acceptabilité par notre population des contraintes complémentaires, supplémentaires au niveau de nos libertés. Je crois effectivement il faut prendre des décisions et prendre des décisions politiques courageuses et ne pas naviguer à vue. Le pari qui est pris, c'est un pari sur la santé des Mosellanes et des Mosellans, mais de tous les Français, parce que le virus va s'étendre partout. Les variants brésiliens et sud-africains sont très invasifs, et je regrette tout simplement que la concertation d'hier n'ait servi à rien. Il y avait quasi unanimité sur la proposition d'avancer d'une semaine les vacances scolaires.
Fermer les établissements une semaine plus tôt, oui.
Et en profiter pour vacciner. Rien n'est fait. Alors, on nous annonce 2000 vaccins. Vous venez de le dire, 2000 vaccins, c'est 1000 vaccinations pour 1000 personnes sur une population de plus d'1 million d'habitants. De qui se moque-t-on?
Et un confinement local, très local, est-ce que c'est une mesure que vous réclamiez malgré le caractère très, très transfrontalier de votre département?
Autant sur les fermetures par anticipation des écoles pendant une semaine, où il y avait une quasi-unanimité, autant sur le confinement, je ne peux pas dire qu'il y avait une unanimité. Parce que, effectivement, vous l'avez dit vous-même, il faut d'abord se concerter avec le Luxembourg et la SAR. On a 150 000 personnes qui franchissent les frontières tous les jours pour aller travailler. Donc on ne peut pas, d'un coup de baguette magique comme ça, tout arrêter. Mais si on ne prend pas ces décisions, si on n'ouvre pas ces discussions avec nos voisins, les variants brésiliens et sud-africains seront là. Il faut vraiment ajuster d'urgence et prendre des décisions, même si elles risquent d'être défavorables dans l'opinion publique. Moi, j'ai été ministre, je ne le suis plus, je suis parlementaire aujourd'hui. J'ai un rôle d'alerte, j'ai pas un rôle de décision. Mais c'est au gouvernement de prendre les décisions. Et on voit bien que les ministres ne prennent aucune décision, c'est l'Élysée qui décide de tout. Et l'Élysée, pour le moment, fait un pari, mais un pari sur la santé.
L'annonce du préfet à l'instant, quelques minutes avant que nous commencions à cet entretien, de ne pas fermer les écoles, c'est un coup dur pour le département. Est-ce que votre département est désarmé face à cette progression spectaculaire de l'épidémie? La Moselle, c'est quand même le département où le couvre-feu est en vigueur depuis le 2 janvier, donc bien avant tout le monde.
Mais écoutez, j'ai dit hier au ministre de la Santé que le couvre-feu n'avait pas réussi, il avait échoué. Alors il m'a repris en me disant que si j'étais objectif, il m'enverrait des tableaux, je les attends, pour me montrer que ça marche. Ça n'a pas marché, on a bien vu même à Toulouse, ils étaient d'accord, ça ne marchait pas. Chez nous, ça n'a pas marché. Dans les conférences qu'on avait avec le préfet régulièrement, lui-même avait constaté que les samedis, on avait concentré la population dans les magasins, concentré la population un peu partout, et c'était en famille, on n'allait pas tout seul faire les courses. Donc on a augmenté les risques de contagion. Moi je crois qu'il faut à tout prix rappeler bien sûr les règles, les masques, mais il faut peut-être aussi que le gouvernement se penche aujourd'hui, puisque on nous annonce que les masques artisanaux ne se protègent pas. Il faut donc des masques chirurgicaux. Et on a des milieux, les étudiants, les milieux, je dirais, défavorisés. Il faut peut-être prendre l'initiative de leur fournir ces masques, parce que tout le monde ne peut pas se les procurer. Et le confinement, si les médecins le jugeaient utile, oui, on aurait pu reconfiner. Alors on nous dit, c'est qu'au nord du département de la Moselle et au nord du département de la Meurthe-Moselle. Mais c'est faux. Et la presse locale le dit aujourd'hui. On a par exemple l'exemple de Forbach qui n'est pas du tout au nord. La cité scolaire de Forbach, on a là-bas 28 élèves touchés par les variants au collège, 12 au lycée et 21 parmi les différents personnels. Le collège de Boulay, c'est pareil. Donc c'est en train de s'étendre partout.
Merci.
Et là, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, rapidement prendre des décisions, parce que réarmer les lits, il faut du temps. Et puis arrêter tout, déprogrammer toutes les opérations chirurgicales, je vous l'ai dit, c'est une catastrophe.
Merci beaucoup Jean-Marc Todeschini, sénateur PS de la Moselle. Merci à vous. Concernant les vaccins, la société Moderna veut augmenter de 50% la capacité de ses doses de vaccins et proposer des flacons contenant 15 doses au lieu de 10. La demande a été formulée auprès des autorités sanitaires du monde entier. Et puis en Grande-Bretagne, le gouvernement se mobilise tout au long du week-end pour accélérer la vaccination. Plusieurs ministres sont donc mobilisés, visite dans les centres de vaccination. vaccination, avec pour objectif d'atteindre 15 millions de personnes protégées dans la catégorie des populations les plus vulnérables. Et avec cette crise sanitaire aux conséquences économiques dramatiques pour les restaurateurs notamment, fermés depuis plus de 3 mois, selon une enquête menée par l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie, premier syndicat du secteur, au moins 60 à 65% des restaurateurs français proposeraient aujourd'hui une formule de vente à emporter plus ou moins élaborée. Pour certains restaurateurs, il s'agit de sauver les meubles en essayant de travailler malgré la crise. Pour d'autres, c'est devenu une activité à part entière au point que certains affirment vouloir continuer la vente à emporter après la crise sanitaire. Reportage à Bordeaux, Philippe Lefebvre.
Depuis bientôt un an, le 133, un restaurant situé dans un des quartiers chics de la ville, est ouvert 7 jours sur 7 pour proposer de la vente à emporter. Une décision prise dès les premiers jours de la crise et qui a supposé une adaptation pour les 8 salariés comme Greg, le pâtissier.
En restaurant ouvert, on a 5-6 desserts à la carte. Sauf que là, c'est un dessert qu'on fait sur une semaine. Du coup, ça nécessite de répéter les gestes et les efforts, mais c'est intéressant comme travail.
Au fil du temps, l'établissement est devenu un incontournable à Bordeaux, mais Émilie Beaufort, la gérante, reconnaît qu'avec 40 repas vendus chaque jour, on est loin des 60 couverts quotidiens que réalisait le restaurant avant la crise, mais cette restauratrice ne se plaint pas.
Financièrement, on est à l'équilibre aujourd'hui. On perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas beaucoup non plus. Aujourd'hui, je pense qu'on a un ticket moyen entre 30 et 40 euros, ce qui était le double avant.
Et Fabien Beaufour, le chef, estime que cette formule, loin d'être anecdotique, durera bien après la crise.
Il y aura le plaisir de la table et peut-être il y aura beaucoup plus de restaurants qu'on appelle des dark kitchens qui vont opérer dans l'ombre avec un produit très qualitatif, mais sans forcément avoir ce problème de venture, frais d'enseigne, etc.
Et au 133, on imagine un restaurant d'après-Covid qui proposera de nouveau du service à table, mais également de la vente à emporter gastronomique.
Philippe Lefebvre. Et une conséquence de la crise sanitaire sur les océans. Moins de pêche en 2020, davantage de poissons. C'est le bilan de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation des mers. Les pêcheurs sont moins sortis en mer en 2020. Ils ont capturé moins de poissons. Pour les pêcheurs, cela signifie bien sûr une baisse de revenus. D'un point de vue environnemental, cela veut dire davantage de poissons dans les océans. Alain Bissot, chargé de mission à l'IFREMER avec Célia Kira.
On a fait une étude sur l'ensemble de l'activité des navires de plus de 12 mètres en France hexagonale. On a mesuré les informations dont on disposait, c'est-à-dire la production, l'activité en termes de jours de pêche, la valeur débarquée. Et ce que l'on constate, c'est une baisse globale de 14% de la production, c'est-à-dire des quantités débarquées, et de 10% de l'activité de pêche par rapport à la moyenne des années passées, 2018-2019. C'est vraiment des moyennes et ça n'exclut pas que pour certains bateaux, la baisse a été de 50, de 60, voire de 70%. Il faut regarder espèce par espèce, population par population, mais globalement, oui, si on capture moins une année, ça favorise l'augmentation des quantités de poissons.
Alain Bissot avec Célia Kiré.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
En Italie, Mario Draghi a donc pris la tête d'un gouvernement de cohésion. Le président du Conseil italien, intronisé hier, a prêté serment ce matin. En direct de Rome, on retrouve notre correspondant, Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino.
Bonjour.
Et l'entrée en fonction d'un président du Conseil en Italie est un rituel bien codifié.
Oui, mais cette fois, il est un peu spécial. C'est le président de la République qui l'avait imposé. Il voulait un gouvernement qui ne devait s'identifier en aucune formule politique. Et donc après l'échec des partis de son tour autour d'une majorité, l'alternative était des élections législatives anticipées. En pleine pandémie, Sergio Mattarella a préféré appeler Mario Draghi pour sortir l'Italie de l'impasse. Tous ont donc accepté de mettre de côté leur idéologie, leur litige pour le soutenir. En intégrant tous les principaux partis, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, le nouveau président du Conseil a fait table rase de toutes les inimitiés pour repartir de zéro. Il l'a fait aussi dans la continuité, non seulement du gouvernement Conte, en reconfirmant de nombreux ministres sortants, mais aussi dans la continuité politique de ces 10 dernières années. Il a rappelé des figures qui avaient déjà gouverné avec le centre-droit de Silvio Berlusconi et le centre-gauche du Parti démocrate. Mais dans l'immédiat, pour sortir le pays de la crise pandémique, économique et sociale, l'ancien banquier central a préféré s'entourer de proches aussi des techniciens en poste clé, comme à l'économie, à l'éducation, à la justice ou encore aux infrastructures.
Antonino Gallofaro en direct de Rome, merci. Aux États-Unis, verdict possible dès aujourd'hui au procès de destitution de Donald Trump. L'ancien président est accusé d'avoir incité à l'insurrection lors des événements du Capitole le 6 janvier dernier. Fin des débats hier soir. Et ce sont donc les sénateurs qui, tout à l'heure, décideront de la culpabilité ou non de l'ex-président. Washington, Grégory Phillips.
Le 6 janvier dernier, jour de la certification des résultats de la présidentielle de novembre, ils ont été les premiers témoins des violences du Capitole. Et ce sont eux, les sénateurs, 50 démocrates, 50 républicains, qui tout à l'heure devront dire si Donald Trump est coupable ou non d'incitation à l'insurrection. Sauf surprise et convocation de témoins de dernière minute, le vote aura lieu cet après-midi et sauf énorme surprise, Donald Trump devrait être acquitté car le vote a lieu à la majorité des deux tiers pour une condamnation. Il faudrait que 17 sénateurs républicains lâchent l'ancien président. Peu probable, voire impossible. L'an passé, lors du premier procès en destitution de Trump, c'était dans l'affaire ukrainienne, un seul d'entre eux, le sénateur de l'Utah, Mitt Romney, avait voté pour son impeachment. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et on change de sujet, on change d'époque. Allons en Angleterre maintenant, où le mystère Stonehenge est en partie levé. Les pierres de ce site préhistorique viendraient d'un autre site au Pays de Galles. Stonehenge, en fait, aurait déménagé. Une découverte qui lève le voile sur cette construction vieille de 5000 ans, Richard Place.
C'est une enquête minutieuse qui conduit au Pays de Galles, sur les collines verdoyantes du Pembrokeshire. Là se trouvait un cercle de pierres similaire à celui de Stonehenge, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Aligné comme Stonehenge sur le lever du soleil du solstice d'été et avec le même diamètre de 110 mètres. Des monolithes identiques à ceux que l'on trouve à plus de 200 km de là, sur le plus célèbre site archéologique du royaume. Et puis sur cette étendue galloise, des trous dans la terre, des marques anciennes. L'une de ces empreintes correspond parfaitement à l'une des roches de Stonehenge, dont le dessin est pourtant très particulier. Conclusion, les habitants de l'époque ont érigé ce premier cercle de pierre. Contraints à la migration, ils l'ont emporté avec eux, en partie au moins, pour s'installer et le reconstruire 240 km plus à l'est. Les restes d'une vache retrouvés sur le site indiquent sans doute le moyen de transport. Londres, Richard Place, France Inter.
Le tournoi Destination du rugby, la deuxième journée, débute aujourd'hui et la semaine dernière lors de la première journée. Une image surprenante au moment des hymnes qui a fait beaucoup parler. Les supporters, les joueurs de chaque équipe doivent se tenir à un mètre de distance les uns des autres. Une règle imposée par le protocole sanitaire. Cette consigne intrigue d'autant qu'une fois le coup d'envoi donné en rugby, il n'y a plus de distanciation sociale. Mais c'est le protocole, Fanny Chevestrier.
Surprendre et même susciter les railleries, ridicules, stupides. Et pour les mêlés, ils font comment? Ils ne se touchent pas non plus? Dès le week-end dernier, les supporters s'en étaient donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux au moment de la Marseillaise. Pas étonnant, les hymnes en rugby, c'est sacré, c'est le moment où l'émotion monte, où l'on scrute le comportement des joueurs, certains s'agrippant au maillot du coéquipier au bord des larmes. Un rituel important d'avant-match, tout simplement, souligne l'international Gaël Ficou.
C'est sûr qu'on a cette culture-là de se serrer et d'être liés les uns aux autres. On va dire que ça nous donne un peu de force, mais voilà, on n'a pas le droit et malheureusement, on n'a pas le choix.
Et ce même si donc, quelques minutes plus tard, les deux équipes sont tête contre tête à se disputer le ballon. Les joueurs ne comprennent donc pas forcément cette règle, mais tant pis, si cela permet aujourd'hui au tournoi de se tenir, explique le troisième ligne des Bleus, Dylan Cretin.
Ouais, c'est clair que c'est assez particulier, hein, sachant qu'on joue pendant 80 minutes les uns contre les autres sur le terrain, mais bon, on exécute les règles, il y a plusieurs choses qui changent avec le Covid, c'est un peu étrange la première fois, mais pas de problème là-dessus.
Et étrange ou non, absurde ou pas, la consigne fixée par le comité destination est claire, les équipes doivent éviter tout contact non indispensable, et le temps des hymnes en fait malheureusement partie.
Fanny Le Chevestrier, de rencontre aujourd'hui, Angleterre, Italie, puis Écosse, Pays de Galles. Demain, le 15 de France joue en Irlande. À noter que le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, n'a pas eu l'autorisation des Irlandais de se rendre à Dublin. La prescription culture pour ce week-end avec le nouveau roman de la Britannique Daisy Johnson, Sœur, l'histoire de deux adolescentes qui trouvent refuge avec leur mère dans une maison au bord de l'océan où règne une atmosphère étrange. Un roman sur les tourments de l'adolescence et les relations entre sœurs. Ilana Mariusef.
Il y a juillet et il y a septembre. Juillet est la plus jeune, Que ne ferait-elle pas pour son aîné? Souvent, les deux sœurs jouent au jeu de septembre à dix. L'une commande, la deuxième exécute. Raphaël Libart, l'éditrice française de Daisy Johnson.
C'est évidemment un roman sur le lien quasiment fusionnel entre deux sœurs qui ont 10 mois d'écart. Mais plus largement, c'est aussi pour moi un roman qui interroge aussi les liens mère-fille. C'est un roman sur l'adolescence, sur la difficulté de l'adolescence, sur jusqu'où peut-on aller par amour et à quel moment, quand on veut protéger quelqu'un, eh ben, en fait, ça peut se transformer en quelque chose de dangereux, en quelque chose de nocif.
Une menace sourde plane tout au long du récit. Le fameux incident du lycée, celui qui a obligé la mère et ses deux filles à déménager, on le découvre touche par touche.
On lit une page et là, on se dit, là, on a un écrivain. Un écrivain qui a une voix, elle a à peine 30 ans. C'est une langue, je trouve, qu'il est à la fois extrêmement poétique et à la fois extrêmement facile à lire, d'une certaine façon. C'est pas une langue, un style littéraire compliqué qui laisse le lecteur en dehors. Au contraire, c'est une langue qui, dès les premiers mots, ça vous absorbe, en fait. C'est la langue, je trouve, qui porte à travers tout le récit.
La traductrice, Laetitia Deveau, rend à merveille cette langue drue, à la fois concrète et poétique, jusqu'au retournement final qui donne au livre un sens bouleversant et complètement nouveau.
Sœur de Daisy Johnson, traduit de l'anglais par Laetitia Deveau, publié chez Stock. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Persistance de température hivernale aujourd'hui sur les deux tiers nord du pays, partie de très bas jusqu'à moins 15 degrés relevés en début de matinée du sud Alsace à la Franche-Comté. Les valeurs auront du mal à dépasser 0 à 2 degrés cet après-midi à Lyon, Dijon, Metz, Orléans, Bourges ou encore à Paris, Lille, Caen, Cherbourg et Rennes. Contraste toujours très marqué avec les régions méridionales où il est prévu 10 degrés cet après-midi à Toulouse, 11 à Marseille, 13 à Tarbes ainsi qu'à Ajaccio. Confrontés à des températures froides, les pluies qui arrivent par l'océan vont se transformer en verglas, en particulier sur les départements de la pointe ouest placés en vigilance orange. En fin de journée et la nuit prochaine, ces phénomènes glissants pourront déborder vers la basse Normandie et les pays de la Loire. En marge de cette dégradation, le ciel aura tendance à s'ennuager cet après-midi sur la moitié ouest du pays jusqu'à la haute Normandie, le centre Val-de-Loire, le Limousin et le Midi-Pyrénées. Mais plus à l'est, le bleu va résister.
Jean-Michel Golinski de Météo France.